Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Des mouvements massifs des populations s'observent à nouveau à Bagata au Kwilu. En 4 jours, plus de 400 nouveaux déplacés sont arrivés à Fatundu fuyant l'insécurité. Ils s'ajoutent aux milliers d'autres déplacés, mais les conditions de vie sont précaires, s'indigne l'autorité provinciale. Sauf imprévu, la CENI clôture l'opération d'enrôlement des électeurs le samedi 1er avril dans le Maniema notamment. Cependant, les plaintes continuent sur le terrain, cas de Kailo avec l'insuffisance des machines et où certains font 2 jours de marche pour s'enrôler. Un natif de Kailo plaide déjà pour une prolongation de l'opération. Et puis, Ituri, plus de 18 000 enfants n'y vont plus à l'école, soit 59 écoles fermées à cause de l'insécurité dans le territoire de Djougou. Que faire en urgence pour sauver l'avenir de ces enfants? Réponse avec notre invité, Jean-Jacques Masumbuko, directeur provincial de l'éducation de l'Ituri 1. Madame, Messieurs, bonjour. Province du Kwilu pour commencer. Insécurité dans le territoire de Bagata. Des mouvements massifs des populations s'observent encore du 25 au 28 mars en cours. Plus de 400 nouveaux déplacés sont arrivés à la cité de Fatundu, chef-lieu du secteur de Wamba, fuyant le regain des violences dans leur village, notamment Kimpasi, où le chef de terre a été abattu samedi dernier. Le directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires humanitaires indique que ces personnes viennent s'ajouter à des milliers des déplacés qui y vivent déjà dans des conditions inhumaines. Jérémy Bikiele appelle les organisations qui ont reçu des moyens de la part des fonds humanitaires pour assister ces déplacés à se mobiliser car le besoin est urgent. Le directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires humanitaires dans le Kwilu s'explique au micro de Irène Boma.
Depuis l'attaque du village Kimpasi, il y a maintenant un mouvement de déplacés qui viennent vers la cité de Fatundu. Et depuis la date du 25 au 28 mars, nos services ont pu enregistrer un total de 412 déplacés, dont 55 hommes, 77 femmes et 280 enfants, qui sont actuellement dans la cité de Fatundu. Et cet afflux de déplacés continue encore parce que la zone n'est pas suffisamment sécurisée. Les conditions ne sont pas toujours meilleurs, ils sont encore précaires. Donc il y a les déplacés qui sont encore dans un site où ils attendent encore l'appui du gouvernement, notamment aussi, et de partenaires qui ont pu bénéficier de l'appui des fonds humanitaires afin d'assurer un appui qui contribuera à améliorer leurs conditions. Nous demandons que l'intervention soit souple et rapide parce qu'il y a eu des interventions que le fonds humanitaire a débloquées auprès des structures qui devraient intervenir, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que très peu d'interventions qui ne sont pas à la hauteur du besoin humanitaire actuel.
Du côté de l'Ituri, 7 personnes ont été tuées au cours d'une incursion mardi des rebelles ADF dans le village Idou, 33 km de Komanda Centre au sud du territoire d'Irumu. Selon des sources locales, les victimes composées des femmes et des enfants en quête de vivres ont été surprises dans la forêt par ces rebelles. La société civile précise que ce bilan est encore provisoire car plusieurs personnes ont été blessées et d'autres portées disparues. Cette structure demande aux autorités militaires d'étendre les opérations conjointes dans cette région pour démanteler l'ennemi. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon des sources locales, ces rebelles fuyaient l'assaut des forces conjointes FARDC armées ougandaises qui ont intensifié depuis la semaine dernière des opérations dans la région de Tchabi et Boga au sud d'Irumu. C'est après une tentative d'attaque lundi de ces groupes armés contre un convoi de véhicules sur le tronçon Komanda Luna dont les bilans étaient d'un taximen tué. Des sources locales de sécurité, ces inciviques cherchent à tout prix à occuper leurs anciens bastions sur les collines Israël, CEI ainsi que Boutani, proche de la rivière Ituri. Ils ont abattu civils, tous des peuples autochtones pygmées dans les villages Idohu, précise le coordonnateur de la société civile. Dieudonné Malangaï déplore cette énième attaque contre les paisibles populations sans moyens de défense. Il ajoute que ces bilans pourraient s'alourdir car les recherches d'autres corps se poursuivent dans cette zone qui est temporairement inaccessible. Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri indique que les opérations militaires sont en cours pour démanteler cette force négative. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nord Kivu, pendant ce temps, une accalmie accalmie relative s'observe depuis la matinée de ce mercredi dans la zone des combats qui oppose les rebelles du M23 aux FARDC et forces d'autodéfense dans le territoire de Masisi. Après l'occupation de Mouissou hier mardi, ces rebelles ont également pris le contrôle de Biambwe et ses environs avant de se retirer pendant la nuit de la cuvette de Biambwe pour s'installer sur les collines de Kasizi, surplombant la cité, ce qui met en danger encore une fois la cité minière de Rubaya, située à quelques kilomètres seulement, affirment nos sources. Le point avec Blaise Shindani Kambala.
Plusieurs sources locales affirment qu'après avoir pris le contrôle de Biambwe, les rebelles du M23 ont systématiquement pillé les biens de la population ainsi qu'un nombre important du bétail avant de se retirer sur les collines de Gaziza, 3 km de la cité. Depuis ce matin, ajoutent nos sources, aucune force n'est encore présente dans la cité de Biambwe. Les FARDC et les forces d'autodéfense sont également positionnées sur d'autres collines du côté groupement Mufuni Kibabi, tandis que les rebelles sont en face du côté Matanda, renseigne la société civile. Cette situation menace également la cité minière de Rubaya, située à quelques kilomètres de Biambwe, et inquiète beaucoup la population de la région. La population de Biambwe s'est déplacée vers Rubaya, Katale, Luchebere, Masisi Centre et Boabo. Par ailleurs, sur l'axe Mweso-Kichanga en groupement Bachali-Mokoto, la situation est relativement calme ce matin, mais incertain. Les rebelles renforcent leur position dans les entités occupées récemment, indiquent les sources locales.
Dans la province de la Tchopo, le second militaire grièvement blessé hier lors du cambriolage d'une chambre froide par des hommes en tenue civile et armée a succombé à ses blessures dans la soirée d'hier, ce qui porte à deux le nombre de militaires FARDC décédés à la suite des coups de balle tirés par des malfrats au moment où ils devaient quitter les lieux où ils venaient d'opérer. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver les malfrats en cavale. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
En dépit des soins intensifs auxquels il a été soumis, ce militaire n'a pas pu survivre, regrette un officier de la police urbaine. Celui-ci précise qu'il a beaucoup saigné parce qu'il a été blessé grièvement. Par ailleurs, parlant des biens volés, la même source rapporte que lors du cambriolage, ces hommes armés ont emporté une somme de plus de 20 000 dollars américains et trois téléphones Android de la propriétaire de la chambre froide. Chez la seconde dame, voisine de la première cité, le montant de l'argent pris n'est pas encore déterminé. Toujours selon la police, une carte d'électeur d'une personne autre que le malfrat, victime de la justice populaire hier, a été retrouvée dans la poche de cette dernière. La police dit avoir mis la main sur le propriétaire de cette carte et l'a déférée devant la juridiction compétente pour raison d'enquête. Et pendant ce temps, le commissaire supérieur principal, Floribert Kingombe, rassure la population que les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver tous les autres criminels qui courent encore dans la nature. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika. Deuxième jour ce mercredi de l'audience publique au tribunal de grande instance de Kalemi, audience qui se tient en chambre foraine à Kongolo. Des sources à Kongolo rapportent que ce procès oppose le ministère public à une dizaine de prévenus, poursuivis notamment pour viol, assassinat, vol qualifié et coups et blessures. La fondation Panzi apporte un appui financier pour l'organisation de ce procès. Paulin Munanga.
Les audiences publiques se déroulent devant le bureau de la police de Kongolo Centre. Ce mercredi, le tribunal poursuit avec l'instruction des dossiers. Certaines sources sur place signalent qu'au cours de l'audience de ce mercredi, le ministère public a demandé l'acquittement d'un prévenu poursuivi pour viol sur mineur. Et pour cause, la victime a déclaré devant le tribunal qu'au moment de l'acte, elle était majeure, âgée de 18 ans. Cette intervention a provoqué des cris de la foule présente à l'audience. Pour le président à l'intérim du tribunal de grande instance de Kalemi, il était nécessaire pour le tribunal de se déplacer à Kongolo afin de traiter des causes qui sont pendantes. La fondation Panzi appuie l'organisation de ces procès à travers son projet Prévention et réponse aux violences basées sur le genre. Elle a facilité le déplacement du tribunal de Kalemi à Kongolo. Il est prévu que les audiences se tiennent pendant 12 jours. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. Sauf imprévu, la CENI clôture l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs le samedi 1er avril. Entre-temps, sur le terrain, il s'observe un grand engouement des populations et les plaintes continuent. À Kailo, par exemple, il y a des populations qui font 2 jours de marche pour s'enrôler et à cela s'ajoute l'insuffisance des machines. Edimo Kesumaili, natif de Kailo qui revient de ce coin, plaide auprès de la CENI pour un autre moratoire, même d'un mois, dit-il. Il est au micro de Florence.
Nous avions constaté par exemple l'insuffisance des machines dans les Kailo profonds. Par exemple dans les secteurs de Balanga, vous trouverez une seule machine qui doit couvrir tout un groupement. Et au sein des groupements, vous trouvez plusieurs localités. Et le deuxième constat, c'est la distance entre les centres d'enrôlement et les localités. Vous verrez par exemple la population qui doit effectuer au moins 2 jours pour se faire identifier et s'enrôler. C'est le cas par exemple dans le secteur de Wasongola, entre Kachwale et Nyonga. Et troisièmement, les constats sont aussi relativement amer sur la nouvelle carte d'électeur qui est presque de mauvaise qualité. Les identités s'effacent et même la photo, la carte d'électeur devient comme une petite carte de poche. Voilà pourquoi, en tant que notable du territoire de Kailo, 1. Nous demandons un moratoire, une prolongation même de 1 mois pour que les processus soient inclusifs. De 2. Pour le cas des insuffisances des machines, qu'on ajoute des machines pour permettre à ce que la population ne puisse pas en souffrir. Nous venons de constater que certaines populations ici des territoires de Kailo, au lieu de se faire enrôler dans leur fief, ils sont obligés de venir parfois à Kindu.
Sud Kivu, la place de la femme au sein de la police nationale congolaise était au centre des débats sur le projet d'autonomisation, projet intitulé « Policiers au féminin ». Activité organisée hier à Bukavu par la police des Nations Unies UNPOL et la police nationale congolaise. Ce, dans le but de promouvoir la femme au sein de la PNC, cette activité intervient dans le cadre de la clôture du mois dédié aux femmes. Rachel Kiesembangu, au reportage.
Promouvoir la femme, son intégration au sein de la PNC, le respect qu'on lui doit et le traitement égalitaire, tel est l'objectif de cette activité. Jean-François Vézina, chef d'équipe de police spécialisée en violences sexuelles basées sur le genre, UNPOL SPT.
C'est une activité d'empowerment féminin, donc rehausser la place de la femme au sein de la police nationale du Congo. C'est vraiment promouvoir la place de la femme au sein de l'organisation, l'intégration, le respect qu'on doit à la femme et le traitement égalitaire qu'on doit leur accorder.
C'était une occasion pour sensibiliser les femmes policières afin que celles-ci sachent comment améliorer leur travail et se comporter en tant que femmes policières professionnelles. Major Ursule Karumba, commandant protection de l'enfance, section de Bagira.
Nous avons voulu renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent continuer à rendre un service bien équitable. C'est ainsi qu'on a dit aujourd'hui, nous allons nous rencontrer afin que chacune puisse faire des perspectives par rapport à sa qualité et à sa fonction.
L'autonomisation policière au féminin revêt une importance capitale afin que les femmes policières congolaises se rendent compte de leur potentiel pour développer leur leadership. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le ravinement, une autre cause de déplacement interne des populations, surtout en période des pluies. Dans plusieurs quartiers de la ville-province, des ménages perdent leurs habitations du fait des érosions qui les emportent. Cela sous un regard impuissant face au degré dévastateur des eaux de ruissellement non canalisées. Ces eaux, en lessivant et en emportant d'importantes masses de terre, entraînent également tout investissement se trouvant sur leur passage. Illustration dans le quartier Mbala, commune de Selimbao, vers ce reportage que nous propose Billy Van Lutumba.
Le malheur dans ce quartier longeant la nationale numéro 1 menant de Kinshasa vers Matadi dans sa partie comprise entre l'UPN et la cité verte s'aggrave en février 2019.
Les caniveaux étaient touchés et un monsieur qui avait jeté ses moellons là-bas et cela a causé un problème. Toute quantité de l'eau qui venait des télécoms UPN s'est déversée à notre côté là-bas. Alors cela a créé une grande érosion jusqu'à ce que la population ait zappé tout comment qu'on souffrir. Le président est au courant de ça et nous a même promis qu'il y aura des travaux qui seront faits d'une manière générale.
Progressant à chaque pluie donc à vive allure, plus d'une centaine de ménages se retrouvent réfugiés dans des familles d'accueil dans les zones non menacées par des têtes d'érosion ou carrément quittent le quartier. Témoignage d'une habitante.
Il y a des maisons, des trucs déjà, il y a des familles déjà quittées, il y a des vies humaines qui sont parties. Mon chauffeur est parmi aussi les gens qui sont partis. Leur parcelle est partie aussi dans le ravin et pour le moment, il s'est réfugié quelque part. Sa famille est éparpillée. Ce ravin est en train de détruire, je peux dire, tous les quartiers. L'OVD fait la descente presque chaque fois, mais rien n'est fait jusque-là.
Deux ou trois mois sont déjà passés depuis que l'OVD, Office des voiries et drainage, a rassuré, souligne les habitants du quartier, de la signature d'un contrat avec l'entreprise chinoise Crackwit pour des travaux sur ce site érosif. Mais hélas, regrette-t-il, même pas une bêche, encore moins un engin, ne sont visibles depuis.
Actualité internationale.
Au Sénégal, malgré l'interdiction de la préfecture, la coalition d'opposition Yewi Askanoui a maintenu son appel à des manifestations ce mercredi à Dakar et demain jeudi, appel lancé lors du procès d'Ousmane Sonko, poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme. Sa précédente convocation le 16 mars avait provoqué des heurts dans la capitale sénégalaise. Dans un contexte de vives tensions, la justice a dénoncé mardi l'existence d'un groupe visant l'insurrection, des élucubrations selon Ousmane Sonko. Le gouvernement du Botswana a répondu mardi aux accusations de l'ex-président botswanais Ian Khama. Ce dernier a taxé d'autoritarisme et de menace pour la démocratie le gouvernement de son successeur Mogwetsi Masisi. L'administration actuelle a qualifié ces attaques de scandaleuses. L'ancien chef d'État de 70 ans, qui a quitté le pouvoir en 2018 après deux mandats, avait pourtant désigné Mogwetsi Masisi comme candidat pour prendre la relève.
L'invité.
L'insécurité qui sévit en Ituri depuis bientôt 6 ans affecte le bon déroulement des activités scolaires dans le territoire de Djougou. 59 nouvelles écoles ont fermé leurs portes ces 3 derniers mois à cause de l'activisme des groupes armés, ce qui pénalise près de 18 800 enfants qui ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour sauver l'avenir de ces enfants? Réponse avec notre invité, le directeur provincial de l'éducation de l'Ituri 1, Jean-Jacques Masumbuko, répond aux questions de Jean-Claude Loki.
Monsieur Jean-Jacques Masumbuko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est la situation des écoles qui fonctionnent dans le territoire de Djougou à ce jour?
Oui, la situation n'est pas bonne dans cette zone de Djougou parce que certaines écoles ont fermé et d'autres se retrouvent dans les camps de déplacés, dans des zones d'accueil, avec des difficultés énormes. Il y a de sérieux problèmes de protection des enfants. C'est des problèmes de nutrition, c'est des problèmes de... Donc toute la vie quotidienne, elle n'est pas normale dans cette zone de santé. Non, dans le territoire de Djougou en soi.
Et juste avant l'interview, vous me disiez qu'il y a nombreuses écoles donc, qui ont fermé. Il y a même qui avaient semblé reprendre les activités scolaires, mais du coup, donc, ont encore refermé. Comme pour dire que la situation instable dans la zone... Franchement, sacrifie beaucoup d'élèves, d'enfants, non seulement les enfants, mais aussi les enseignants.
Effectivement, je vous ai relaté que la reprise des cours au deuxième trimestre, c'était le 9 janvier. Mais à un certain moment, les autres semblaient reprendre au mois de février. Mais après un moment, ça a encore capoté. Et aujourd'hui, nous vivons des situations catastrophiques après l'analyse de cette situation.
Du coup, ce sont des centaines, pour ne pas dire des milliers d'élèves qui ne vont plus à l'école. Jean-Jacques Masumbuko, quelle sort à ce jour? C'est vrai, il y a aussi des enseignants qui ne peuvent plus prester. On peut dire qu'ils ont presque perdu leur emploi. Quel sort?
Oui, plusieurs élèves sont touchés par cette zone. Par cette situation, c'est un nombre important et ça ne nous réjouit pas. Ça ne nous réjouit pas parce que nous sommes en train de faire l'enseignement à double vitesse. C'est-à-dire, là où c'est stable, il y a un enseignement stable et là où c'est moins sécurisé, c'est l'enseignement non sécurisé. Donc, c'est l'enseignement à double vitesse.
Ça ne vous réjouit pas, mais à votre niveau, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir, comment dirais-je, tant soit peu soulager ou encadrer ces enfants qui ne vont plus à l'école à cause de l'insécurité? Je ne sais pas, j'imagine que vous avez des partenaires. À ce stade-là, qu'est-ce qui est fait?
Oui, dans la réunion du classe rééducation du 27 février 2023, ici dans la province de l'Ituri, nous nous sommes réunis avec les partenaires techniques et financiers de l'éducation. Nous avons réuni tous ces partenaires et certains partenaires sont en train de vouloir aider cette zone malgré la situation que nous avons décriée. Il y a par exemple NRC, qui compte accompagner 50 enseignants dans 6 écoles. Il y a par exemple Fédipros qui accepte d'accompagner une école de 300 élèves dans l'équipe scolaire. Il y a DRC, donc le Conseil danois pour les réfugiés, qui accepte d'accompagner 16 écoles, dont 8 écoles déplacées et 8 écoles de la communauté scolaire, avec plus de 6000 kits élèves et 150 kits enseignants. Il y a AGEDEC qui accepte d'accompagner 12 écoles avec des kits de conscience qu'ils ont reçus de l'UNICEF. Et nous-mêmes, à notre niveau, nous ne dormons pas, nous ne faisons que plaider pour résoudre tant soit peu au problème de cette zone de Djougou qui est devenue vraiment une zone d'urgence par la situation que nous sommes en train de vivre.
C'est vrai que rétablir la sécurité, ce n'est pas de votre compétence. Vous êtes technicien, donc au niveau de l'éducation, c'est quoi la crainte d'ici 6 mois, 1 année, 2 ans, si ces enfants toujours ne vont pas à l'école?
Si ces enfants ne sont pas récupérés, ne sont pas sauvés, pendant cette période, c'est une bombe à retardement. Cette bombe va éclabousser tout le monde. C'est ainsi ma crainte, c'est que si ces enfants ne rentrent pas à l'école, ils vont s'enrôler dans les groupes armés, ils vont faire une vie de brousse, alors on aura difficile à vivre dans le terrorisme dans cette zone-là. Ça, je le dis parce que je crains qu'un monde sans éducation devienne un monde difficile à gérer. Je lance un SOS pour que ces enfants soient protégés à travers l'éducation.
Jacques Massimboko, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le directeur provincial de l'éducation, Ituri 1, répondait aux questions de Jean-Claude Loki. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.